bonjour et merci de vous savoir très nombreux à l'écoute de Patara, le débat politique de Radio Ndekeluka. Nous nous intéressons aujourd'hui à la décision de la Cour constitutionnelle qui a déclaré anticonstitutionnelle la loi relative à la vente de la nationalité et les ressources naturelles du pays. Nous verrons dans le second point la requête du Bloc républicain qui attaque le décret portant création du comité chargé de rédiger le projet d'une nouvelle constitution de la République centrafricaine, de la révision à l'édition d'une nouvelle constitution. Les contestations fusent de tous bords. Le gouvernement ne recule pas, lui aussi, devant cette contre-attaque judiciaire de ses adversaires. Et pour en débattre, nous recevons sur le plateau de l'émission Patara, deux spécialistes de droit. L'une est avocate au barreau de Centrafrique et ancienne ministre de l'Environnement. Elle est contre la modification de la Constitution du 30 mars 2016. Madame Arlette Sombodibele, bonjour.
Bonjour Armando.
Alexine Duyabela, bonjour.
Bonjour Armando.
Docteur en droit et enseignant à la Faculté des sciences juridiques et politiques, cadre du parti au pouvoir MCU et conseiller politique du président de l'Assemblée nationale, Armando Nguendi, c'est moi encore. Bonjour à toutes et à tous. Le débat, c'est tout de suite.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Deux hommes de droit. Monsieur Nduyabela, vous avez animé une conférence avec les universitaires et les étudiants pour soutenir l'idée de la modification désormais de l'édition de la nouvelle constitution. Qu'est-ce qui vous a motivé d'accepter de débattre aujourd'hui sur ce sujet et avec Maître Sombodibele?
Je vous remercie, monsieur le journaliste. Je n'ai pas organisé une conférence pour soutenir l'idée de modification d'une constitution. Vous rectifiez ces propos. J'ai organisé une conférence à l'université de Bangui en tant que professeur, en tant que maître de conférence. Et je l'ai précisé lors de mes propos introductifs que le rôle de l'enseignant, c'est de rendre intelligible ce qui ne l'est pas. Donc il faudrait qu'on se comprenne très bien. Je n'ai pas organisé une conférence pour soutenir l'idée de modification d'une constitution. C'est pour rendre intelligible ce qui ne l'est pas. Il y a des propos qui sont tenus ici et là, à gauche et à droite. Et nous, universitaires...
Mais vous ne prenez pas position ?
Prendre position, universitaire, c'est, il doit être neutre. Prendre position par rapport à qui ? Je dis, j'ai organisé, on est sur le campus universitaire. Et l'un des critères de la science au niveau du CAMES, c'est d'être neutre. Mais il ne faut pas s'autoriser à dire à tout le monde qu'on est pour ou qu'on est contre. Non, c'est un débat académique et scientifique. Il n'y a que les arguments techniques du droit que j'ai essayé de mettre en exergue. Mais il faut qu'on soit clair.
Et dans vos arguments, est-ce que vos arguments ne mettent pas en contradiction certaines positions?
Mais bien sûr, mais alors, vous voyez, c'est là où on ne se comprend pas. Si moi, en tant que maître de conférence, je développe des arguments qui militent en faveur de la révision de la Constitution, ça veut dire que forcément, automatiquement, je soutiens. Non, c'est des arguments techniques. Il y a des arguments pour, il y a des arguments. J'ai développé simplement des arguments techniques qui militent en faveur de l'initiative de la Constitution, initiée naturellement par le député. C'est pas moi. L'initiateur de la révision constitutionnelle ne s'appelle pas M. Nduyabela Alexis. L'initiateur s'appelle M. Crépin Kapayen.
Et donc,
c'est un sujet, un débat. Un sujet
c'est qui Brice Kapayen.
Oui, Brice Kapayen. Donc, c'est un sujet. Et donc, nous, on doit rester silencieux en tant qu'universitaire. On ne doit pas se prononcer. Non, non, non. Et puis, bon, et puis en plus, c'est un sujet de droit constitutionnel. Moi, je suis enseignant de droit constitutionnel. Ça fait plus de 10 ans. J'enseigne le droit constitutionnel et une thématique qui intéresse le droit constitutionnel, moi je dois rester silencieux. Je vais vous dire, et puis je l'ai fait remarquer. En 1961, le professeur Giraud de l'Université de Lille a publié dans la revue du droit public un article intéressant que moi j'ai lu, j'ai photocopié et que même si maître à l'heure dans le besoin, je peux photocopier, je mets ça à sa disposition. Et dans cet article, il dit la responsabilité des facultés de droit dans le déclin de la démocratie en France. Parce que pendant une certaine période, c'est-à-dire de 1789 à 1951, il a remarqué, il a dit ça. Il a dit, mais pourquoi, par exemple, les constitutionnalistes sont restés indifférents par rapport à des questions qui se posaient entre 1789 et 1958 ? Et donc, les constitutionnalistes, les facultés de droit devaient intervenir. Donc, là, à l'époque, c'est les enseignants de droit sont restés plus unanimes. Ce sont plus ceux qui sont de la faculté de lettres qui y sont intervenus, les Lamartine, Victor Hugo, etc. Et on a vu qu'il y a même un qui accuse, j'accuse, etc. Et ils sont pris parti d'où il y avait à l'époque ce qu'on appelle la littérature engagée. Engagé, ça veut dire que c'était beaucoup plus les littéraires qui s'intéressaient à la politique que les juristes, alors qu'eux-mêmes, déjà par les matières qu'on dispense au sein des facultés, droit constitutionnel, c'est un droit qui encadre le phénomène politique. Et donc, l'universitaire ne doit pas afficher une pusillanimité vis-à-vis des question hein, de droit qui se pose. Donc c'est dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas travestir ma pensée. J'ai organisé une conférence pour rendre intelligible ce qui ne l'est pas. Quand on dit, par exemple, oui, peut-être on va entrer dans le débat, on dira qu'il y a des verrous constitutionnels, etc., ou qu'il y a des dispositions intangibles. En tant que professeur de droit, je dois l'accepter et dire oui, oui, il y a des dispositions intangibles. Oui, il y en a. Mais est-ce qu'on s'est posé la question de savoir si ces dispositions s'adressent à quel type de pouvoir? Quand on fait la confusion entre pouvoir constitution originaire et pouvoir constitution dérivé, alors que bon, il y a des notions par rapport à l'évolution, parce que la science du droit évolue. Aujourd'hui, on ne parle plus de pouvoir constitution dérivé, ça n'existe plus dans le langage. J'ai le dictionnaire du droit constitutionnel, si vous voulez. Si j'avais su, je vais vous apporter. Alors, dans le dictionnaire, on parle de pouvoir de révision constitutionnelle. Et donc, en tant qu'enseignant de droit, moi qui enseigne la matière, je ne dois pas apporter des clarifications. C'est pour ça que je dis le rôle de l'enseignant, c'est de rendre intelligible et que ça doit être compris comme ça. Et non pour dire non, j'ai organisé une conférence pour prendre parti et dire je suis favorable à la révision. D'abord, les textes, ceux qui ont élaboré avant, ont prévu déjà des modalités de révision de constitution. Donc, c'est sur cette base, c'est cet argument hein, scientifique que je me suis fondé. L'université, voyez, doit être un centre de un rendez-vous du donneur du recevoir. Chacun doit apporter sa contribution par rapport à un problème de l'heure qui
on
se
va
pose.
Écouter, et donc, maître voilà, c'est dans ce sens-là que on je va suis écouter, content. Maître, madame, vous êtes l'une des femmes juristes à prendre position contre l'idée de la modification de la Constitution et même de l'écriture de la nouvelle Constitution. Pourquoi militez-vous contre cette initiative du gouvernement dans G16 aujourd'hui?
Vous noterez que c'est déjà au mois de juin, bien avant qu'il y ait tout ce remue-ménage juridico-politique en ce moment, que le G16 avait pris position contre le fait, entre guillemets, d'attenter à certaines dispositions de la Constitution. Parce que je me rappelle avoir posté, lors de la conférence que nous avions tenue pour présenter notre mouvement, une vidéo où je disais qu'une Constitution peut certes être révisée, mais à quel moment et dans quel but? J'avais dit, est-ce qu'en ce moment, la priorité des priorités consiste à modifier, et là maintenant on a évolué, ce n'est pas modifié, carrément maintenant on veut changer de constitution. Vous voyez ? Parce qu'il me semble que j'étais sur ce plateau avec vos invités, les personnes de M. Doneng et de M. Mwandika, j'avais parlé des priorités de l'heure. Et les priorités de l'heure, il me semble qu'elles sont évidentes. Hein ? Parce que vous avez un texte. Et vous avez à côté la politique qui est appliquée en fonction de ce texte-là. Si on avait jugé que ce texte n'était pas adapté, comment concevoir qu'on attende qu'on arrive à la fin d'un mandat du président en place pour estimer qu'il faut absolument non plus modifier, mais changer cette constitution? Alors nous voyons le danger. Nous voyons le danger qui consiste en l'absence d'action au bénéfice de la population. Nous voyons le danger qui consiste à vouloir carrément s'installer. Parce que c'est ce que se dit. On nous a nié le fait que c'était le président qui voulait cette initiative. Non, lui n'était pas du tout intéressé à ça. Mais maintenant, vous avez vu, c'est clair que le président est très intéressé à ce que cette constitution soit modifiée. Nous le pressentions, nous. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a d'inquiétant dans cette constitution? Ce sont ces articles qui interdisent d'attenter à ce qui concerne le nombre et la durée du mandat présidentiel. Et puis, lorsque j'entends, et c'est aberrant, il avait déjà dit ici, le jeune Doneng, il avait parlé de non-rétroactivité. Moi, je ne comprends pas. Écoutez, une disposition transitoire, c'est le passage d'un moment à un autre. Et lorsque vous avez la Constitution en son titre 16, qui traite des dispositions transitoires et finales, on vous dit bien que la situation qui prévalait va disparaître dès lors que le président, vote élu par le peuple, prendra fonction. Le chef d'État de transition reste en place jusqu'à la prise de la fonction effective du président de la République. Qu'est-ce qu'il y a de rétroactif là-dedans? Lorsqu'on dit que toutes les institutions restent, mais dès lors que les nouvelles sont installées, elles disparaissent. Où est la contradiction? Où est le caractère rétroactif dans ces dispositions-là? Et on veut changer cette constitution à cause de ces dispositions-là. On ne peut pas faire un tel état, dire bon, ces dispositions-là disparaissent parce que. Mais non, on va tout changer parce qu'il y a des choses qui sont contradictoires. Et puis, bon, vous voyez, on s'attaque à l'article 152 relative à la révision qui ne peut se faire que lorsque le Parlement réunis en congrès. Mais attendez, on lit bien le français. Bon, moi, je ne suis pas une spécialiste du droit constitutionnel, mais je lis les textes juridiques et je vois quelle est la pensée du législateur. Et cette pensée a été confirmée par la Cour constitutionnelle elle-même, qui a parlé dans un avis qui lui était demandé par le président de la République, d'ailleurs, hein, qui a dit...
Pendant l'avènement de Covid-19.
Exactement, un avis. Et la Cour s'était prononcée exactement dans le sens que nous comprenons, oui. En disant que la révision, on ne dit pas qu'elle ne peut pas se faire, mais il y a des conditions, il y a des préalables. Hein, nous, on évoque la situation du pays, lorsque on évoque l'inexistence du Sénat, avec pourtant la recommandation qui a été faite à la fin de cette constitution, dans l'article 155 des dispositions transitoires et finales, les institutions prévues par la présente constitution seront mises en place dans les 12 mois, à l'exception du Sénat qui sera mis en place après les élections municipales et régionales. Il me semble que la priorité, c'est ça. Élections municipales et régionales. Pourquoi vouloir mettre les charrues avant les bœufs ? À un moment, on parlait d'élections municipales et régionales. Tout à coup, tout le monde s'est tué sur cette question. Maintenant, on préparait même, il me semble que le PNUD préparait même des candidates aux élections municipales et régionales. Et là, maintenant, silence radio, la priorité, c'est ce référendum en vue de, non plus de modifier, mais carrément de changer la Constitution. Nous disons que c'est extrêmement grave parce que la priorité ne réside pas dans ce changement de la Constitution.
Monsieur Ndoui, vous voulez répondre ?
Non, je vais répondre pour répondre à ma consoeur Arlette Modibili. Elle a évoqué plusieurs points. Je commençais par cette question de priorité, puis ça revient tout le temps. La priorité des priorités, c'est de faire en sorte que le chef de l'État doit faire en sorte que tous les citoyens centrafricains arrivent à conjuguer les cinq verbes de Buganda. Parce que selon ce que j'ai compris, c'est cela. Alors, moi, je suis, comme elle dit, moi, je suis spécialiste droit constitutionnel, mais j'ai fait également du droit et économie de développement. Le premier DEA que j'ai préparé en France, c'est un DEA de droit et économie de développement. Et donc, à l'Institut de droit de la paix et du développement de l'Université de Nice, on ne m'a pas dit que le développement est un processus linéaire. C'est-à-dire qu'on doit commencer à satisfaire d'abord les besoins fondamentaux des citoyens avant de revenir maintenant en arrière pour élaborer des textes juridiques. Moi, ce qu'on m'a appris, m'a dit, le développement, et puis qu'on reste dans la généralité, est un processus cumulatif. On fait tout en même temps. Si on doit se préoccuper de réviser les textes, on le fait en même temps. On ne doit pas dire, il faut d'abord donner à manger, construire des routes, construire des hôpitaux au peuple centrafricain avant de revenir fabriquer. Non, ça c'est un, c'est pas ce qu'on m'a appris. Donc oui, le développement est un processus cumulatif, ce n'est pas un processus linéaire. Et pour moi, je dis, avec un regard scientifique, c'est une argumentation qui relève du populisme. On veut plaire. Et puis on dit non, il faut améliorer la condition de vie des situations. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut poser la problématique du développement. Tout se fait en même temps. Et comme je suis d'accord, quand tu dis Doding, on dit rétroactivité. Oh non, ça c'est vrai. Moi je suis constitutionnaliste. La rétroactivité n'a rien à voir. Ce n'est pas vraiment en tout cas un point à mettre en exergue pour réviser une constitution. Je suis entièrement d'accord avec cette prise de position. En revanche, il existe des arguments techniques. C'est vrai que l'opposition s'est tétanisée, focalisée sur cette histoire de à travers l'exposé de motifs depuis Capayenne, que lui envisageait modifier l'article 35, tout ça pour changer la durée de mandat. Et l'opposition démocratique s'est tétanisée sur ça pour créer un bloc, hein, pour réviser. Et donc, or, en dehors de cet article, il existe d'autres dispositions qui risquent de poser problème. Il n'y a pas seulement que la durée de mandat. Moi, je ne suis pas contre. On peut faire cette question. Et puis, il faudrait qu'on explique ça très bien. Ça fait partie de ce qu'on appelle des limites matérielles à la révision d'une constitution. Il y a des limites temporelles, limites matérielles. Ça a commencé en France à l'époque. Ils criaient, la forme du gouvernement ne doit pas faire l'objet de révision. Parce qu'à l'époque, sous la Troisième République, il y a un président de la République qui s'appelle Mac Mahon, d'obédience monarchiste. Il voulait que les Français reviennent à la monarchie. Et donc les républicains ont dit non, il faut insérer cette disposition. La forme républicaine ne doit pas faire l'objet de révision. Et donc, c'est comme ça, ils ont inséré, mais ça a donné lieu également à beaucoup de débats à l'époque, comme ça donne lieu, et les universitaires sont intervenus. Il y a un grand professeur, ça s'appelle Joseph Berthélémy. Berthélémy a signé, elle a rédigé le traité du droit constitutionnel, et dans ce traité, il a dit, mais pourquoi il allait constitutionner, mais on mis cette disposition, mais cette exclusion matérielle, comme on le fait maintenant à l'article 153. Il a dit lui-même, je répète ses propres propos, ce n'est pas les propos, c'est une absurdité juridique et politique de prévoir qu'il y a des limites matérielles parce que le constituant originaire qui a créé Ben en plus, là, d'ici quelques années, un autre conscient originaire peut revenir et par la technique, ce qu'on appelle de double révision successive.
Est-ce que c'est pas parce qu'il y a une vision, l'idée de changer la constitution et de maintenir le pouvoir, c'est pour cette raison qu'on a mis ce verrou, par exemple, de la révision ou de ne pas passer directement.
Mais oui, mais l'idée, c'est ça. L'idée, ça, c'est pas pour qu'un candidat ne soit, ou bien chef d'État, un président de la République, ne se maintienne pas continuellement au pouvoir que cette, ce soi-disant verrou, entre guillemets, a été fixé. Mais je dis, et donc, ce qu'on doit faire comprendre au peuple, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, ben, en l'absence du Sénat, on ne peut pas procéder parce qu'il y a des règles à respecter en matière de révision. Ça, lorsque la Cour constitutionnelle a rendu l'avis, à l'époque, moi, j'étais là. L'ancien deuxième vice-président est venu me consulter parce que le contenu venait d'arriver. Il m'a dit, mais nous, on envisage de proroger le mandat présidentiel parce que, bon, en l'absence du Sénat, nous possédons la totalité du pouvoir législatif. Je lui ai répondu non, en tant que constitutionnaliste. J'ai dit non, ça ne peut pas marcher. En l'absence du Sénat, vous avez simplement la totalité du pouvoir législatif, c'est-à-dire de voter des lois. Mais le pouvoir constituant, vous n'avez pas ça. Si dans cette disposition que ma sœur Sombo Dibila a lu tout à l'heure, on avait dit, en l'absence du Sénat, l'Assemblée nationale exerce la totalité du pouvoir législatif et du pouvoir de révision constitutionnelle, oui, dans ces conditions-là, on peut procéder à la révision au sein de l'Assemblée. Mais en l'état actuel, puis j'avais répondu, et j'ai dit à l'ancien deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, que ce n'est pas possible. Là, à l'époque, ils ne m'ont pas essayé, même dans notre camp de MCO, on ne se comprend pas. Ah, ils ont engagé la procédure et la Cour constitutionnelle même m'a donné raison, a rendu un avis défavorable en disant, en l'état actuel, on ne peut pas procéder à une révision constitutionnelle. Donc au sein du Sénat, l'organe prévu par le constituant originaire pour réviser la Constitution, c'est le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Et le Sénat. Donc, en l'absence.
Vous avez trois minutes de plus sur Mme Sombo Dibélé. Vous prenez la parole pour la deuxième fois si vous voulez rebondir sur les propos de monsieur avant qu'on puisse évoluer.
Moi, je ne rebondirai que sur la notion de développement. Moi, je ne vais pas me perdre dans des grandes considérations qui se réfèrent d'ailleurs à des auteurs français qui ne sont pas dans les bonnes grâces en ce moment ici. Non, moi, je dis, lorsque le peuple accorde sa confiance à celui qui est élu, le peuple attend de lui, soyons concrets, le peuple attend de lui des réalisations visibles, palpables. Hôpitaux, établissements scolaires, un développement économique visible, non pas une régression. Et c'est sur ces points-là que l'on peut juger de l'action d'un gouvernement. Vous comprenez ? Le développement pour le peuple, je suis d'accord pour faire du populisme. Parce que, en fait, moi, je parle au nom de ceux qui n'ont pas la possibilité de parler. Et je dis que dans ce populisme-là, l'inquiétude, c'est de savoir que le peuple, sauf quand il est manipulé, quand il est payé pour sortir dans la rue, parler de ce qu'il ne comprend même pas. Vous voyez ? On soutient, au changement de la Constitution. On a entendu, on a vu des vidéos où certains compatriotes...
Le peuple ne comprend rien.
Certains compatriotes ont marché pour soutenir l'idée de la modification. Et lorsqu'on les abordait, ils disaient qu'ils ne savaient même pas pourquoi ils étaient là. Il y en a qui ont dit qu'on leur a donné le temps, ils sont venus. Mais bon, voilà. Donc, moi, je pense que la manipulation d'une frange de la population, en opposant à une autre frange la possibilité de s'exprimer, pour juste expliquer, pour que les gens s'engagent en connaissance de cause. Je n'ai pas dit que le peuple ne comprend pas, mais il faut éviter de manipuler le peuple. Il faut parler franchement au peuple. Il faut dire exactement ce qu'on fait, ce qu'on a fait, ce qu'on fera. Monsieur Ngwandika se faisait toujours un plaisir à dire que vous avez été ministre. Ben oui, justement, il y a une lettre de mission pour chaque ministre. Hein? Et quelles sont les réalisations ? Lorsque on veut accomplir une action, il faut rendre. Il y a un devoir de reddition des comptes par chaque ministère. Voyez celui de l'équipement déjà. Regardez l'état des routes. Hein? C'est à cela qu'on peut juger l'action d'un ministre. Regardez les hôpitaux. Où il faut acheter des médicaments en catimini pour être soigné. C'est à ça que l'on peut juger l'action d'un ministre. Voyez ? Donc, regardez également la situation des mines, la situation des eaux et forêts, qu'on nous fasse le compte et qu'on nous dise que ça a fonctionné, ça va fonctionner. C'est ce que le peuple attend, le concret. C'est bien beau, on peut faire des grandes phrases, on peut citer de grands hommes, mais ce n'est pas ça qui est la préoccupation principale de la population.
On va changer maintenant le chapitre maintenant de ce débat. Madame, je reste avec vous. Le G16 dont vous faites partie a obtenu gain de cause suite à la saisine de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne Sangokouin. La Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle la vente de nationalité centrafricaine, des ressources naturelles et des terres à travers la plateforme Sangokouin. Êtes-vous satisfaite, vous, en tant que telle, de ce verdict ?
Écoutez, J'étais très sceptique, ça je ne vous le cacherai pas, sur la position que prendrait la Cour constitutionnelle, parce que j'ai eu un malheureux précédent avec l'honorable Mekassoua, lorsque l'intérim de la présidence était assuré par M. Waboué en l'absence de Mme Darlan, Cour constitutionnelle qui est absolument revenue sur son principe de rendre des décisions en dernier ressort. Et ça, pour pouvoir écarter mon client, l'honorable Mekassoua. Donc, je ne m'attendais plus, je me faisais plus d'illusions. Et j'ai été agréablement surprise de me rendre compte que la Cour a fait un travail technique. Vous savez, il y a la loi régissant la crypto-monnaie en République centrafricaine, la loi numéro 22, du 22 avril 2022, promulguée par le président de la République. Et nous avons observé que pour l'application de cette loi, le processus choisi entrait en contradiction avec les dispositions de la Constitution. Relatif à la nationalité, relatif ce processus à la gestion de nos ressources minières, à la gestion de notre terre, nous avons estimé qu'il y avait là un danger à permettre que, via le Sango Coin, on puisse acheter la nationalité, on puisse acheter notre terre, on puisse acquérir des ressources minières. Et sur ces points-là, la Cour constitutionnelle nous a donné raison. Sur tous les points que nous avons abordés, il n'y a qu'un seul point où nous n'avons pas été suivis, parce que à l'article 8, la Cour constitutionnelle dit « La demande d'annulation sur l'utilisation du mot Sango pour la crypto-monnaie est rejetée. » C'est normal. C'est un peu normal parce qu'en fait, ce n'est que le terme Sango, mais ce terme a bien servi pour désigner une boîte de nuit. Je veux parler de Sango Night. Hein? Donc, si c'est une manière d'accepter qu'on fasse de la publicité sur le terme Sango, nous disons qu'il n'y a pas de danger fondamental, mais le vrai danger consistait en les autres points, mise en vente des terrains, ressources naturelles. Je l'ai dit ici, et ça, nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits parce que c'est une protection de tout ce qui appartient au peuple centrafricain. Vous voyez ? En plus, l'utilisation de l'anglais pour aborder cette question de vente du Sango Coin, pour en faire la publicité par voie numérique. Non, ce n'est pas accessible à tout le monde. Où en sommes-nous avec notre réseau Internet, nos connexions?
Et nos deux langues nationales, c'est ce que vous voulez dire?
Voilà, nos deux langues, oui.
Sango et français.
Sango et français, effectivement. Voyez. Donc nous ne sommes pas tellement au fait du progrès en ce qui concerne pourtant ce que le ministre disait sur la connexion G5, je crois. on ne remarque pas encore que nous soyons au point. Hein. Même sur nos petits appareils, nous avons souvent des difficultés à être connectés. Alors, ce n'est pas à la portée du citoyen lambda et cela est de nature à créer un déséquilibre, une inégalité entre les citoyens. Et nous sommes insurgés contre cela. Nous pensons qu'il faut rester quand même dans la simplicité, hein, et gérer d'abord ce qu'on a du mal à gérer, hein, notre franc CFA. Et après, on pourra parler de crypto-monnaie. En tout cas, tant que cette crypto-monnaie, cette loi ne touche pas à ce dont je vous ai parlé ici, et que c'est un outil de développement entre griffes, nous on accepte. Mais autant de fois que cette loi touchera à nos droits, eh bien nous saisirons la Cour s'il le faut.
Monsieur Ndouyabela, sur cette question de la décision de la Cour constitutionnelle.
Je respecte la décision de la Cour constitutionnelle. Ce que tu as dit, dans la Constitution, ça s'impose à tout le monde, y compris à toute personne morale et physique. En revanche, je suis sidéré d'apprendre et de voir maintenant que des Centrafricains se réveillent pour soutenir, pour revendiquer leur souveraineté. C'est très intéressant. Alors que ce réveil-là aurait dû s'exprimer depuis longtemps. C'est maintenant à cause d'une question purement nationale. Je pense que le droit de nationalité, les conventions internationales sur la nationalité existent. L'État peut prendre des dispositions internes, tout ça, pour la mise en application de ce qui concerne la nationalité. Je le dis parce que, attends, je m'excuse, maître Alès, au bout du boulot, je parle... Je parle en tant qu'enseignant. Je ne peux que me référer à des auteurs. C'est tout à fait normal parce que c'est mon quotidien. Je lis constamment et tous les jours.
Je ne vous le reproche pas.
Voilà, donc je ne peux pas dire que
je ne veux pas grands mots, je ne veux pas reprocher.
Et que c'est tout à fait normal.
Je ne voulais pas reprocher.
Il y a eu une convention par le passé qui a été citée et qui a porté atteinte à même l'exploitation des ressources naturelles. Les accords quadripartites. Là,
le G16 ne s'est pas réveillé pour s'insurger contre cet accord-là. Cet accord met en difficulté l'exploitation des ressources naturelles. Moi, j'ai lu cet accord-là. Avant de procéder à l'exploitation de sous-sol, il faut demander la partie, là, etc. Ça, le G16 ne s'est pas réveillé pour s'insurger contre cela, alors que c'est ça qui a miné depuis 60 ans le développement du pays. Maintenant, on invente une technique, c'est du commerce, etc., et qui est conforme avec la législation en main terme. Bon, moi, je partage le communiqué du ministre directeur de cabinet qui a, à la suite de cette décision, dit, bon, heureusement, la Cour constitutionnelle n'a pas aligné purement et simplement Sangokouen. Donc, moi, j'estime pour ma part que c'est un coup. Mais en vrai, je voudrais techniquement, ouais, déjà même du point de vue de la procédure, est-ce que le G16 devait saisir la Cour constitutionnelle pour demander l'annulation ? L'article 98, je vais lire ça, c'est la Constitution. Comme elle a dit, nous lisons également les textes. L'article 98 dit que toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle sous la constitutionnalité des lois. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois. C'est bien écrit. Armand, regardez. Ce n'est pas moi qui l'ai rédigé. C'est là. Article 98. Toute personne peut saisir la Cour sur la constitutionnalité des lois. Le G16 saisit la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des règlements. C'est en contradiction flagrante des dispositions de la Constitution. Normalement, la Cour constitutionnelle devait rejeter purement et simplement pour une question de forme. Même si l'article 90, je crois le précédent, c'est l'article 80 qui prévoit qu'elle doit se prononcer sur les règlements, etc. Je pense que c'est une erreur.
En Suisse, de cette décision de la Cour constitutionnelle, vous pensez qu'il y a une erreur?
Mais une erreur, elle n'est pas. Mais c'est pas moi qui l'ai. C'est là, vous voyez, toute personne peut saisir la Cour sur la conscience des lois. Ce n'est pas marqué des règlements ici.
Mais il y a une phase à la fin pour continuer.
Oui, soit directement, soit par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui le concerne. Bon, quelle est l'affaire qui concerne le G16 devant une juridiction? Il n'y a même pas une affaire concernant le G16 devant une juridiction pour qu'ils invoquent l'inconstitutionnalité de cet texte. Vous voyez? Ça pose un problème. Ouais, donc, ça, on est obligé, c'est exactement. J'avais déjà soulevé par le passé cette question-là, à propos de l'affaire Benoît, lorsque le chef de l'État avait crié la Direction générale des travaux et d'investissement, etc., sur la base de l'article 10 du texte organique de la présidente de la République, qui l'autorise à créer des poules, des délégations, etc., la Cour constitutionnelle a annulé. Il n'a même pas regardé le texte organique de la présidence de la République, a fait l'amalgame. Et puis, moi, juriste, est-ce que la délégation de service doit être assimilée à une entreprise? La Cour constitutionnelle ne s'est pas posée la question pour cela et a pris une décision comme ça. Et donc nous, en tant qu'enseignants, on doit se saisir pour analyser. Moi, je suis en train d'en faire un article, c'est déjà passé, et puis je publierai pour porter la connaissance. Même si on dit des sciences, ça ne s'applique pas aux enseignants. Les enseignants du supérieur, on a liberté d'expression et donc on saisira de ces errements, autant des hommes politiques que des juges constitutionnels pour
notre grade. Sur ce point, rapidement.
Je voudrais revenir sur ce que monsieur Dui Yabela a dit à propos d'un accord qui braderait, je ne sais pas trop compris, je ne connais pas cet accord. Le G16, à cette époque-là, il me semble, n'existait pas. Parce que je vous ai dit que nous sommes constitués en juin de cette année. Et concernant la saisine qui ne se serait pas faite sur la loi...
Nous, il est censé ignorer la loi, Madame Arlène Zimbouni.
Je ne vous interromps pas lorsque vous parlez. Vous permettez, on ne va pas commencer comme ça, parce qu'à ce moment-là, je refuserai tout dialogue avec vous.
On ne rentre pas dans le wanditisme.
D'accord. On est dans le débat. Vous ne connaissez pas le texte, je vous dis simplement, nous, il est censé ignorer la loi.
Oui, on est dans le débat, Madame.
Ne s'énerve pas.
Non, il ne faut pas chercher non plus à énerver les gens.
Je ne t'énerve pas.
Allez-y, Madame.
Non, sincèrement. La Cour constitutionnelle a bien dit que les dispositions qui figurent sur le site officiel, etc., etc., et dans le document Sango Generis Paper, qui sont la mise en application de la loi, qui permettent la mise en application de la loi sur la crypto monnaie, sont des dispositions conférant des droits relevant du domaine de la loi déterminé par l'article 80 de la Constitution. Déjà, le fait que le pouvoir exécutif se permette de légiférer, entre guillemets, dans des domaines relevant de la compétence du pouvoir parlementaire, ça pose un problème. Et voilà pourquoi la Cour constitutionnelle s'est saisie et a reconnu sa compétence. Parce qu'à ce moment-là, on va prendre une loi qui est adoptée par l'Assemblée nationale, sans toute précision. Et sur la base de cette loi-là, on peut légiférer dans le domaine qui est celui de l'Assemblée nationale. Parce que dans cette loi, vous n'avez pas tout ce qui a été déterminé sur le site Sango Generis, Pepper, Sango Org, vous n'avez pas tout ça, ni en papier, ni par la voie du réseau social. Non, vous n'avez pas ça. Et c'est ça le danger. On prend une loi sur papier, là oui, on permet qu'il y ait... Et puis pour la mettre en application, on s'introduit dans le domaine législatif. Moi, je pense que je ne veux pas me mettre à juger. Moi, je ne suis pas doctrinaire, je ne suis pas critique des décisions de la Cour constitutionnelle. J'étais ici lorsque je vous ai fait remarquer que c'était malheureux que la Cour, qui dit qu'elle n'aura pas des décisions contestables, ait pu le faire pour écarter politiquement un homme. Ça, c'était regrettable. Voilà, c'était du fabriqué. Mais ici, la Cour, elle statue, je le sais pour avoir fait partie de la Cour constitutionnelle, lorsque cela est nécessaire, en opportunité, lorsqu'elle trouve qu'il y a un danger pour la Constitution, elle statue, je crois que c'est ce qu'elle a fait, elle a statué en opportunité en constatant bien que cette loi-là, sa mise en application posait problème. Donc moi, je m'arrêterai là pour ce qui est de discuter de cette décision de la Constitution. Monsieur Douy a tout loisir, comme il a dit, de ressaisir la Cour, de faire, paraître des publications. Je ne sais pas. Non, vous aviez dit que vous pouviez en discuter.
Critiquer.
Ok, bien sûr. Critiquer. Mais moi, en ce qui me concerne, j'ai compris que ici, la Cour s'est saisie en opportunité parce qu'il y avait danger à laisser passer ces dispositions pour mettre en pratique cette
Monsieur Ndouy, en tant que centrafricain, pas en tant qu'homme politique, est-ce qu'on peut vendre une parcelle de terre en nid ou une nationalité en nid, par exemple? Ce n'est pas un danger, selon vous?
Je dis, les codes de nationalité existent en République centrafricaine. Je crois savoir que le chef de l'État...
Mais il y a des procédures. Il y a des procédures pour obtenir la nationalité.
Mais est-ce que c'est une vente de nationalité? En tant qu'il me semble, c'est intéresser des partenaires par rapport à l'exploitation de nos ressources. On ne peut pas dire à quelqu'un de rester chez lui et procéder à l'exploitation si on n'a pas les moyens. On doit regarder du côté de transfert de technologies. Ceux qui font les transferts de technologies ne peuvent pas venir comme ça. Si on intéresse, on dit, voilà, vous restez pendant un certain nombre d'années, là, vous investissez. Et puis, bon, c'est libre, la liberté d'acquérir. La preuve, c'est qu'il y en a qui ont plusieurs nationalités. Du point de vue du droit international, ce n'est pas interdit. On peut avoir la nationalité, plusieurs nationalités, mais la Cour internationale de justice avait déjà tranché la question. On ne regarde que la nationalité effective. Donc si on peut, des individus peuvent, on ne peut pas l'interdire, puisque la Cour internationale de justice l'a déjà tranché. Donc du point de vue, moi je dis du point de vue du droit,
il n'y a pas d'interdiction, mais le fait de le faire en ligne, est-ce que ce n'est pas un danger? C'est ça ce que
Mme Dibé a révélé. Mais un danger pour quoi? En quoi?
Il y a des procédures pour obtenir
en quoi ça va gêner si c'est pour attirer des investisseurs qui ont des capitaux et qui peuvent venir investir en quoi ça doit gêner? La République centrafricaine est quand même très vaste. C'est là où je dis, vous voyez, pour en revenir, moi, techniquement, ce qui m'intéresse, c'est la décision rendue par la Cour. Et l'une des raisons qui milite en faveur de la révision de la Constitution, c'est cela. Est-ce que la Cour constitutionnelle, depuis ce pronom un certain temps, alors qu'elle devait se focaliser sur la Constitution et la loi, mais pas le fait qu'on a inséré à l'article 95 que la elle peut juger des règlements, etc., elle empiète sur les attributions du Conseil d'État. Il y a là une loi qui prévoit la juridiction, la haute juridiction chargée de juger de la légalité d'un acte administratif, décret du chef de l'État. Il y a une loi qui est là. Et donc la Cour constitutionnelle, voyez-vous, il y a cette concurrence qu'il faudra corriger et la nécessité de la révision de la Constitution s'impose à ce niveau pour éviter, voyez-vous, la Cour constitutionnelle s'accapare d'aller se prononcer. Même le Conseil d'État, il y a une jurisprudence établie, le Conseil d'État peut même connaître se prononcer parce que la Constitution fait partie du bloc de la légalité. Donc le Conseil d'État peut rendre une décision en se référant à la Constitution en disant non, tel décret comme ça est contraire à la Constitution. Mais ce n'est pas le rôle de la Cour constitutionnelle. Alors c'est pour ça que j'apprécie l'article qui est paru dans les médias. Aujourd'hui, le seul pays au monde où les actes administratifs sont jugés par le juge constitutionnel et non le juge administratif. Quand on a un juge administratif, tout ce qui est décret, arrêté, ce qu'on appelle règlement, le terme juridique c'est règlement, ça relève des attributions du Conseil d'État. Ça ne relève pas des attributions de la Cour constitutionnelle. C'est une erreur de faute de saisie qui s'est faufilée dans la Constitution. Et donc, il faut nécessairement qu'on révise. Parce que là, je l'ai dit lors de ma conférence, vous voyez, dans la version de la Constitution présentée par le secrétaire général du gouvernement, il y a au moins cinquantaine de tirets concernant cet article. Alors que l'article 80, alors que dans la version préparé et publié par la Cour constitutionnelle, il y a seulement 29. Oui. Donc il y a des erreurs de forme comme ça que la Cour constitutionnelle a déjà corrigées, mais cette erreur également de saisie, on a inséré les règlements parce qu'il y avait règlement et règlement des assemblées, etc. Donc je crois que c'était une erreur de saisie. Là, la Cour constitutionnelle ne peut pas corriger. Il faut que ce soit le peuple lui-même qui vienne et qui abroge cette disposition, ou bien qu'on supprime cette disposition pour laisser tout ce qui est règlement. Sinon, à quoi ? Ben, on a une institution de l'ordre administratif chargée de juger le règlement. Et maintenant, la Cour constitutionnelle s'accapare de ces attributions, c'est pas normal. C'est pour cette raison, moi, techniquement, ce sont des arguments techniquement juridiques que j'ai avancé pour et qui militent en faveur de la révision de la Constitution.
Et sur la question de la vente de nationalité et des ressources, Mme Somodjibili, vous avez déjà évoqué la question que c'est un danger si la Cour laissait passer ce document.
Je voudrais citer la situation d'un certain monsieur Simbi, il me semble, hein, qui a acquis très rapidement la nationalité centrafricaine, le Camerounais qui est en cavale, qui est poursuivi par son pays. Là. C'est bien monsieur Simbi, non ? Ah, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas la situation de ce monsieur ?
Je ne connais pas, c'est son nom.
Qui a un passeport centrafricain, qui est même celui qui a été reçu par le chef de l'État et qui semble maintenant être poursuivi par son pays. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Et lui, il s'est réfugié, semble-t-il, grâce à son passeport centrafricain. Vous voyez, il a réussi à sortir, à s'exfiltrer du Cameroun grâce à un passeport centrafricain. Vous voyez, cela donne une très mauvaise impression. Ça donne, c'est déjà le sentiment que l'on brade notre nationalité et c'est le sentiment que nous ne valons rien. Nous sommes comme une poubelle. Lorsque vous volez au Cameroun, vous pouvez devenir centrafricain. Lorsque vous détournez dans notre pays, vous pouvez devenir centrafricain. C'est très dangereux. Moi, je vois que la technique pour l'octroi de la nationalité selon le code, hein, où il est exigé un certain nombre de conditions, est la seule valable. Bon, maintenant, lorsqu'on parlait de braderie, ça consiste à faire des annonces, hein, aux investisseurs étrangers, hein, comme quoi ils auront des droits, hein, en achetant des Sango Coins, l'attribution de la nationalité, obligation de concéder un titre foncier, le transfert de la propriété du sol. Oui, c'est mis en parallèle. Hein. Vous faites ça et vous avez ça. Mais si après on leur dit, non, mais écoutez, vous faites ça, mais attendez, on va d'abord observer si les conditions sont remplies, venez habiter ici 5 ans. Là, il y a mal donne, parce que ce n'est pas ce que vous avez dit au départ. Nous, c'est le danger qu'on a vu. Donc, pour ce qui concerne l'obligation de modifier la Constitution, comme disait M. Douy, parce que la Cour se serait octroyée le droit de prendre une décision sur des règlements, non, il n'y a aucun règlement qui a été fait ici, qui a été jugé par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a bien dit que des communiqués de presse significatifs ont été diffusés, toujours en rapport avec cette loi. Il ne faut pas oublier que nous avons saisi la Cour sur une loi, la loi sur la crypto-monnaie et le processus de mise en œuvre de cette loi. Or, ce processus, c'est quoi ? Communiqué de presse relatif au Sango, The First Crypto Initiative. Communiqué de presse de la mise, du lancement, etc. Le président a lui-même revendiqué la paternité de ces mesures à plusieurs reprises lors du lancement de Sango Coin dans un domaine qui relève de l'autorité de l'Assemblée nationale. Et la Cour constitutionnelle a bien dit que en statuant, en opportunité, lorsque vous saisissez la Cour et qu'elle constate, hein, qu'effectivement, il y a violation de la Constitution. Elle a dit, en se servant de l'article 80, qui dit les matières qui relèvent du domaine de la loi, hein, droit civique, garantie fondamentale accordée aux citoyens, voyez, la nationalité, etc. etc. Donc, je crois que la Cour n'a pas fait le travail du Conseil d'État ou du tribunal administratif, parce que... Comment ?
Bien sûr que oui.
On lui a pas.
Le règlement, je vous l'ai dit, même le communiqué fait partie des règlements.
Je ne pense pas lorsque elle vous dit que tout cela était pour soutenir la mise en œuvre d'une loi. Vous voyez ? Il aurait fallu à ce moment-là que le président de la République, lorsque on élaborait cette loi, mette toutes ces précisions dedans. Hein, qu'en vertu de cette loi, hein, le Sango Coin sera initié. Et pour avoir acquis tant de Sango Coin, vous aurez droit à la nationalité. Et il aurait fallu que tout cela soit dit, voyez. Donc, moi, je pense que la Cour constitutionnelle a protégé les intérêts des Centrafricains.
Nous allons apporter...
Bon, en tout cas, ce que je voulais comprendre, je ne sais pas, parce que là, elle a raison.
Quelques
secondes. Dire des secondes à chaque fois. Vous voyez, la loi existe déjà. Dans chaque domaine de l'application de cette même loi,
on doit se référer à l'Assemblée nationale et élaborer et multiplier chaque fois des textes de loi, des textes de loi. L'administration, bien le chef de l'administration, ne peut pas agir directement. Voyez-vous ? C'est ça que je ne comprends pas. Il y a des lois qui existent en ce qui concerne même la nationalité. Il existe déjà le code de la nationalité qui précise tout. On prend des décisions en application de cela, puisque ça a été visé. On dit non, non, non. Cela relève ce raisonnement ambigu là que je ne comprends pas. Mais on doit multiplier. Ça veut dire des
textes. Il y aura
une atrophie de textes législatifs. Une atrophie de textes législatifs.
Il
faudrait énumérer. Mais oui, mais c'est ce qu'ils souhaitent. Qu'à chaque fois, on ne doit pas procéder. Ouais, je dis et puis je le fais remarquer. Le constituant originel a utilisé le terme règlement. Le règlement, ça englobe décret, note de service, arrêté, communiqué, etc. Si je disais tout à l'heure que la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur le règlement, un communiqué émanant du président, c'est aussi un règlement. C'est cela. C'est pour ça que moi, un peu, je dis que ce n'est pas normal.
Oui, je persiste et je signe. La Cour constitutionnelle a visé l'article 80 pour dire que toutes ces dispositions-là étaient un moyen détourné d'attenter à cet article. Et je resterai là.
On va aborder l'autre dernier chapitre et le troisième, c'est la décision de la Cour constitutionnelle. Voilà. Le chef de l'État vient de prendre un nouveau décret portant création du comité chargé de rédiger le projet de la nouvelle constitution de la République centrafricaine. Deux camps sont opposés du point de vue de droit sur la question. Est-ce que les démarches de la mise en place de cette constitution sont-elles respectées, M. Ndouyabila?
Je vais poser la question d'abord à ceux qui contestent la démarche. Après, je vais rebondir. Mais comme vous donnez la parole, quelle démarche? De quelle constitution vous parlez? De quelle constitution?
Il y a le comité
de l'État
de la nouvelle constitution centrafricaine.
Le chef de l'État a pris un décret de mise en place d'un organe chargé de rédiger une nouvelle constitution. La constitution en elle-même n'existe pas. Je ne sais pas si vous avez un projet.
Non, mais non, ça, je non, sais pas. C'est donc, la mise en place du comité.
Oui, c'est la mise en place.
Voilà, on dit de la rédaction.
Le comité de la, c'est anticonstitutionnel, c'est ça, non? C'est ce qu'ils ont dit. En quoi, donc, le chef de l'État ne peut plus prendre il n'a plus de pouvoir discrétionnaire. Quand je vais me référer, je ne peux parler que du pays que je connais le mieux. Lorsque le général de Gaulle, en 1958, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la constitution de la 4e République, a mis en place à l'époque, je n'étais pas encore né, mais comme j'ai fait dans le cadre de mes études de sciences politiques, l'histoire politique et constitutionnelle de la France. En 1958, il avait mis en place un comité chargé de rédiger la constitution actuellement en vigueur en France. Le comité était présidé par le garde des Sceaux, Michel Debré, un acteur de la politique. Et c'est lui qui a piloté de bout en bout avec des juristes du Conseil d'État pour que sa constitution de la 5e République actuelle soit adoptée à l'époque. Est-ce que les Français ou bien l'opposition à l'époque s'est élevé pour dire non, 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 c'est anticonstitutionnel, que la mise en place, ça, je ne comprends pas, pour moi.
Mais puis il y a un antécédent, oui. L'idée de modifier la constitution, mais oui. Maintenant on arrive à la rédaction d'une nouvelle constitution. C'est tout ça qui cause
initialement.
Pourquoi contourner? Pourquoi ne pas rester sur un autre projet? Est-ce que l'ancien projet a un problème ou bien va connaître un échec?
Ce n'est pas contourner. Initialement,
c'est la révision. Mais maintenant,
il se trouve que la révision du point de vue, là, Arlette l'a dit tout à l'heure, en l'absence du Sénat, aucune révision ne peut prospérer.
Et donc, il y a une intention.
Voilà, intention de quoi?
De changer la constitution.
Puisque le peuple le revendique, il y a des gens qui ont fait des marches, etc., ils ont revendiqué, et le chef de l'État n'a fait que remarquer. Enfin, je vous signale au passage, c'est la présidente de la Cour constitutionnelle elle-même qui l'a dit lors de l'investiture du chef de l'État. À moi, vous sentez où le poids de la gestion vous pèse. Pourquoi vous rigolez? Pèse sur vos épaules. Retournez-vous vers le peuple qui vous a désigné président de la République. Voilà, ça, c'est pas moi qui le dis encore là. C'est la présidente de la Cour constitutionnelle. Alors, c'est pas. Je mange. Donc, il y a eu correspondance entre les deux institutions. Bon, mais là, je vais répondre directement en tant que constitutionnaliste. Je dis, est-ce qu'on a besoin même de changer, etc. Bon, ça, si on m'avait consulté, on restait dans la logique de la révision. Dans la logique de la révision. Et la rédaction d'une nouvelle, on distingue, nous les concernés, il y a la révision partielle, la révision totale. La révision partielle, c'est lorsqu'on porte sur un élément. On dit, voilà, tel article comme ça, on modifie, on y va. Mais la révision totale, comme la même...
Ça revient
avec plusieurs articles à modifier, ça revient à la rédaction d'une nouvelle constitution. Voilà, c'est ça. C'est simplement une question de vocabulaire.
Oui, madame Turbo.
Les Suisses avaient fait l'expérience.
Le temps nous fait défaut. On va vous écouter aussi 2 minutes sur ce point. Madame Somo Djibouli, pour la mise en place du comité de rédaction de la nouvelle constitution.
Il aurait fallu inviter une personne qui soit à l'initiative de la saisine de la Cour constitutionnelle par rapport à cette question.
Exactement.
Mais je vous dis seulement que Monsieur Douy,
c'est le doyen de la faculté.
Douy Abela a cité la présidente de la Cour constitutionnelle en disant que c'est elle qui avait invité le chef d'État au moment où le poids du pouvoir lui pèserait trop de se retourner vers le peuple. Il ne faut pas se moquer des gens. Hein. Le peuple centrafricain n'est pas fixé à Bangui. Le peuple centrafricain ne constitue pas des gens qu'on a intéressés à faire une marche sans comprendre pour la plupart du temps pourquoi ils étaient là. C'est pas ça. Et en plus, la République centrafricaine en ce moment ne se définit pas par la ville de Bangui. Est-ce qu'en province, où j'ai lu une décision qui invitait les préfets à participer à une marche pour soutenir l'action du changement de la Constitution, est-ce que vous parlez de spontanéité dans une telle démarche lorsque les préfets sont invités à un jour scolaire à mener les enfants dans les rues pour soutenir? Est-ce que ça, c'est la spontanéité du peuple? Bon, revenons-en à la position du chef d'État lui-même, justement par rapport à cette révision. Il avait été interviewé peu après les élections et qu'est-ce qu'il disait? On doit respecter la Constitution, on doit respecter nos textes. Même si je veux, la Cour constitutionnelle est là, elle dira non. On lui pose la question encore. Vous ne ferez pas un troisième mandat? C'est clair. C'est ce que je vous dis. On doit respecter la Constitution. Alors, si on a commencé sur cette base-là, hein, vous savez, on peut très bien faire ces deux mandats et se reposer, se représenter. C'est même ce qui a été fait par le président Poutine.
La Constitution, pour vous, c'est pour procéder à un nouveau mandat.
Non, absolument. Alors, si le contraire se voit, eh bien, on dira bravo. Oui. Mais avec toutes les gymnastiques qui sont faites, le but est de se maintenir, mais c'est évident, au pouvoir. On dit d'abord que non, on ne s'intéresse pas à ça. Après, on envoie des gens dans les rues à coups de monnaie sonnante et trébuchante. Les pauvres, des fois, c'était 500 francs. Vous voyez ? Non, il ne faut pas insulter l'intelligence des gens. Ça, c'est une injure à l'intelligence de beaucoup de Centrafricains. Moi, je prends des taxis, hein, comme M. Yabela disait là. Hein, je prends souvent des taxis. Hein, et les taximans, ce sont les Centrafricains lambda. Et des fois, dans le taxi, les gens s'étonnent, mais c'est ça, là. Pour le moment, là, c'est pas ça. Les gens, les routes, même qu'on essaie de réparer à coup de latérite, là, il a plu. Allez voir l'état des routes. Hein. Les hôpitaux, hein, la scolarité, le niveau scolaire même, qui est terriblement en baisse. Écoutez, moi, j'ai vécu à l'époque où des étudiants centrafricains, je pense que M. Yabela en fait partie, lorsqu'ils arrivaient en France, il n'y avait pas besoin d'un test. L'équivalence était tout de suite admise. Mais aujourd'hui, même au niveau d'autres pays ici, quand vous entendez un universitaire, vous parlez français, quand vous entendez un universitaire, vous développez son idée, vous vous demandez quel est son niveau. J'ai été appelé à corriger les sujets de culture générale à l'ENAM, hein, mais c'était catastrophique avec une consoeur, maître Donon. Mais l'expression en français, le raisonnement juridique n'y était pas. Alors je me demande, quel magistrat on va nous fabriquer à l'ENAM?
Monsieur,
je respecte la pensée de maître Arlette. Je dis, nous sommes tous, hein, si on s'inscrit dans la pensée rousseauiste, chacun de nous, vous et moi, nous sommes détenteurs d'une parcelle de souveraineté. Donc il ne vous appartient pas de dire, lorsqu'il y a des individus centrafricains qui se mobilisent, de dire que c'est de l'insulte à l'intelligence. Vous n'êtes pas la seule détentrice de la souveraineté. Moi également, je suis détenteur de la souveraineté. Donc de quelque manière que je manifeste, etc., je suis détenteur. Donc il faut faire attention en disant que c'est de l'insulte à l'intelligence. Nous sommes tous...
Que de nous faire croire que c'était spontané. Ça, c'est l'insulte.
Deuxièmement, je voudrais faire observer, il y a un philosophe, Alain, il a dit la fonction de penser ne se délègue point. Ce que pense le chef de l'État dans son appartement, en se rasant ou en prenant son bain, moi je ne peux pas l'imaginer ici. Dire qu'il a envie de faire un troisième mandat, il ne s'est pas encore exprimé sur ce point. Alors,
quelques secondes.
Voilà, non, je termine. Et encore même, bon, si c'est le cas, moi je voudrais répondre également, vous voyez. Je dis, puis peut-être on va dire que je rigole, etc. Mais le chef d'État a prêté serment, oui, c'est bien. Ben, je peux répondre en restant, je pense que c'est Arlette également a lu Don Juan. C'est un personnage comique de Molière. Et qu'elle a dit le plaisir de l'amour se trouve dans le changement. Et puis qu'elle a retourné également cet argument de Molière en faveur de... Si moi, je suis président de la République, face à ce qu'ils disent,
Le plaisir de l'exercice du pouvoir se trouve également dans le changement de stratégie. Ça aussi, c'est de la politique. Voilà, s'il estime que voilà, il faut simplement
changer la stratégie par le président de la République.
Donc, s'il dit non, qu'avant il avait dit ça, et que maintenant, non. La politique, c'est partie de ce qu'on appelle les sciences humaines, ce n'est pas une science hypothético-déductive. On dit 1 plus 1 égale 2.
Mais est-ce que la politique, voilà, c'est l'art de roubler?
Ah oui, c'est une science hypocrite.
Non, c'est pas une science. Bon, une science hypothético-déductive. Non, voilà.
Toute dernière question pour chacun de nous afin qu'on puisse boucler ce débat d'aujourd'hui. Au cas où on arriverait à un référendum, il se poserait la question des financements. Et nous le savons, les élections sont toujours financées par les partenaires dans ce pays. D'où obtiendrait-on le fonds nécessaire pour cela? D'abord, quelques secondes. Ouais, ça, c'est votre idée.
Oui, non, ça, je dis. Non, tout à l'heure, Arlette a dit qu'on va pas. Non, on va organiser les élections municipales. Qui ne vous dit pas que bon, on va faire les deux en même temps? Ça, c'est mon sentiment. Voilà. Si c'est envie, non, est-ce qu'on peut faire d'une pierre plusieurs coups? Voilà. Donc, dans le cadre de municipal, bon, référendum peut intervenir.
Puisque le financement ne viendra pas.
Il y a déjà à la base l'État qui finance. Moi, j'étais dans le comité de gestion des élections par le passé. L'État, j'ai vu comment l'État apporte également sa contribution. Il n'y a pas seulement que l'extérieur. L'État apporte sa contribution et les partenaires apportent beaucoup plus parce que bon, ben, ils sont là pour soutenir le processus de l'État de droit en République centrafricaine. Mais il ne faut pas dire qu'il n'y a que les partenaires, il n'y a que les partenaires. Le gouvernement, hein, moi j'étais là, j'étais à la primature, j'étais dans la cellule de réflexion, comité de stratégique pour les élections. Ben, chaque fois qu'on faisait des contenus, le gouvernement apportait vers le président de l'ANE, des fois interpellé. Non, le gouvernement, vous avez promis, vous n'avez pas encore mis, vous n'avez pas mis. Et chaque fois, le gouvernement apporte aussi sa contribution. Il n'y a pas que, il ne faut pas dire ça, il n'y a pas que l'extérieur. Ils nous aident beaucoup, mais également hein, l'État de
Madame Sambodjoubé, sur cette question, le financement du référendum.
Je ne suis pas dans les secrets des dieux comme M. Yabela, mais il me semble avoir lu que le budget de l'État a été revu à la baisse pour un pays qui aura le moyen de financer des élections, grand bien face à la République. Concernant les élections régionales, municipales, mais si ça peut avoir lieu, c'est très bien. À cette question que vous posez, il n'y a que ceux qui gravite autour du pouvoir qui pourrait vous répondre. Moi, je dis wait and see. On attend et on verra.
Voilà. Et c'est la fin de ce débat d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. Merci à tous nos auditeurs et auditrices, nos internautes. Nous avons parlé de la décision de la Cour constitutionnelle contre la loi portant la vente de la nationalité en ligne pour le projet Sangokouin et le décret portant création du comité de rédaction de la nouvelle constitution. Merci à nos deux invités d'avoir participé à ce rendez-vous. À la semaine prochaine, même heure et même fréquence. Portez-vous bien, car on ne vit qu'une seule fois. Au revoir.